Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons examiner deux caractéristiques qui identifient les véritables serviteurs de Dieu, ceux qui sont conduits par son esprit et qui avancent vers le royaume avec persévérance dans toutes les circonstances qu'ils ont à affronter. Et Dieu permet que nous affrontions diverses sortes de circonstances, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qu'il appelle, Dieu est en train de les entraîner, Dieu est en train de les habituer à compter sur lui dans toutes les situations. Que ce soit des grandes choses ou des petites choses, on doit vraiment développer de marcher avec lui continuellement. Et pour apprendre ça, il ne faut pas l'apprendre seulement théoriquement. Dieu nous donne de l'apprendre sur l'action, dans l'activité qu'on fait, avec les différentes expériences qu'il nous permet de vivre. Parfois, c'est des expériences difficiles, parfois, c'est des expériences plus faciles, mais il veut qu'on apprenne à compter sur lui en toutes circonstances, puis à lui être reconnaissant, et à le reconnaître aussi dans les bénédictions qu'il nous accorde. Parce qu'il y a bien des choses qui nous arrivent, qui sont des bénédictions, mais qui c'est pas marqué nécessairement dessus le mot bénédiction. Il faut y penser et y réfléchir. Et là, on est capable de vraiment l'apprécier. Le titre du sermon aujourd'hui, « Foi et courage », un duo essentiel. Voyez-vous, spirituellement parlant, comme nous allons le voir, la foi et le courage sont absolument indissociables, sont tout à fait inséparables. Vous allez voir pourquoi, vous allez voir comment, et c'est encourageant. Maintenant, pourquoi la foi et le courage sont-ils essentiels? Tout simplement parce que c'est précisément ce qui va nous permettre de persévérer et d'atteindre le but, d'entrer dans la famille de Dieu, d'obtenir la vie éternelle. Si nous n'avons pas la foi et le courage que je vais vous parler aujourd'hui, que je vais vous définir et vous décrire, on ne pourra pas entrer dans le royaume. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Mais c'est intéressant et encourageant de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. Alors, la foi et le courage vont nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Une certaine sorte de foi et une certaine sorte de courage. Et c'est déjà encourageant et c'est déjà, je devrais dire, une sorte de courage pour nous. C'est que cette sorte de foi-là dont je vous parle et cette sorte de courage dont je vous parle, ça ne vient pas de vous. Et ça ne vient pas de moi. Ça ne dépend pas de vos efforts humains, ni de mes efforts humains à moi. Et c'est ça qui est encourageant. Parce qu'autrement, si on a seulement sur nous ce qui on peut compter, c'est décourageant parce qu'on n'a pas de force, parce qu'on manque notre coup, parce qu'on est limité. Mais si on a accès à une puissance indéfinissable, indescriptible, extraordinaire, qui est à notre disposition, à ce moment-là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus du tout la même chose. D'ailleurs, Dieu a fait comprendre ça à un de ses serviteurs dans l'Ancien Testament, Zorobabel. Zorobabel, c'était un gouverneur sur Juda à une certaine époque. Et à ce moment-là, Dieu voulait qu'on rebâtisse le temple qui avait été détruit. Mais c'était une tâche phénoménale. Mais quand on va dans Zacharie 4, verset 6, vous pourrez aller voir, quand on va dans Zacharie 4, verset 6, Dieu dit à Zorobabel, c'est pas par ta force, Zorobabel, sois pas inquiet. Si je te demande de rebâtir le temple, dans les circonstances où vous vivez, ce serait décourageant si tu devais compter seulement sur ta force à toi ou sur la force des gens et les talents des gens qui sont autour de toi. Mais regardez ce que Dieu dit à Zorobabel, le gouverneur de Juda, en lui donnant cet ordre, tu vas rebâtir le temple. Il dit, ce n'est ni par la puissance, en voulant dire ta puissance, Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit, l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. Et c'est là la clé pour nous. C'était la clé pour eux, et c'est la clé pour nous aujourd'hui. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est exactement ce que l'apôtre Paul réaffirme dans Galates 2, verset 20. Paul réaffirme exactement le même principe quand il dit « Ce n'est plus moi qui vis », c'est l'apôtre Paul qui parle, qui avait été baptisé, qui avait reçu le Saint-Esprit en lui, cette puissance de Dieu, cette force de Dieu, Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et le Christ, c'est le Tout-Puissant. Et regardez, il ajoute après, « Je vis par la foi du Fils de Dieu. » Je prends le temps de dire les mots comme il faut. Il dit, « Je vis par la foi du Fils de Dieu. » Donc, ce n'était pas la foi de Paul. C'était la foi du Christ en lui qui agissait. Et ça, il faut en être conscient. Et ça nous aide d'être conscient puis de le comprendre parce que c'est un encouragement, parce qu'on sait qu'on peut se tourner vers Dieu puis lui demander à ce moment-là. Et on peut demander à Jésus-Christ d'agir davantage en nous pour que cette foi-là, sa foi, soit plus vive, plus active, plus dynamique. Mais ça, il faut avoir un cœur disposé à lui obéir et à lui demander pour que ça arrive. Et il veut qu'on fasse cette démarche-là aussi. Demandez et vous recevrez. Et je reviens là-dessus, la foi et le courage sont indissociables. Indissociables. Si nous avons la foi de Christ en nous, nous avons aussi le courage du Christ. Et s'il y en a un qui a été courageux, c'est lui. Et je peux déjà prendre conscience qu'étant baptisé, ayant l'Esprit de Dieu et désirant faire sa volonté, le Christ agit en moi. Et ce sera son courage qui me permettra d'accomplir des choses spéciales, et ce sera sa foi qui me permettra de voir les choses à sa façon et de compter sur Dieu comme tout, pour toute chose. Et comme je dis, il faut en être conscient de ce phénomène-là. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est tellement stimulant puis inspirant de le voir tel que c'est. Il faut en être conscient et en même temps, il faut en demander davantage. C'est écrit « Demandez et vous recevrez ». Et souvent, les gens ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent tout simplement pas. Il faut demander à Dieu en détail. Vous savez, il faut parler à Dieu comme on parle à un ami. Quand on parle à un ami, qu'on demande de l'aide ou quelque chose, on explique en détail nos besoins, ce qu'on vit, ce par quoi on passe. Avec Dieu, ce n'est pas différent. Parfois, il y a des gens qui font l'erreur de dire à Dieu ma prière, moi, c'est simplement dire à Dieu, « Prends soin de moi, parce qu'il sait que il sait ce dont j'ai besoin. » C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, être proche de Dieu. La vraie prière, c'est d'expliquer en détail à Dieu ce qu'on vit, lui expliquer en détail ce qu'on apprécie et qu'on sait recevoir de lui, comme on parle avec un ami. C'est ça, la prière. Et c'est ça, marcher avec Dieu. Il faut en être conscient, il faut demander à Dieu cette foi-là. D'ailleurs, vous irez voir dans Luc 17, verset 5. Luc 17 et le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, c'était les apôtres, là, augmente-nous la foi. Alors, si les apôtres du Christ, choisis directement par lui, qui vivaient avec lui, qui étaient enseignés directement par lui, face à face, demandaient au Christ, augmente-nous la foi, à plus forte raison, nous, aujourd'hui, on doit faire la même demande et on doit souvent revenir à la charge pour dire « Augmente-nous la foi ». Parce que les circonstances de la vie, parfois nos faiblesses, nos émotions humaines et tout ça peuvent parfois ralentir la foi. Parce qu'on laisse parfois les doutes entrer, on laisse les soucis de la vie prendre plus d'espace dans nos esprits et tout ça. Mais si on demande régulièrement à Dieu la foi du Christ, on sera capable de passer par-dessus les soucis de la vie, les inquiétudes et les doutes. Pourquoi? Parce que ce sera la foi du Tout-Puissant en nous autres qui va agir. Il faut l'utiliser, cette foi-là. Et cette foi-là nous porte à obéir à Dieu. On doit la développer. On doit la développer comment? On a un rôle à jouer. On la demande, oui, mais on a un rôle à jouer après. C'est qu'on doit pratiquer les œuvres de justice. Si je demande à Dieu la foi du Christ, mais que je ne vis pas comme le Christ vivrait, que je ne pratique pas les lois de justice, comprenez-vous que la foi, à ce moment-là, pour moi, ne veut rien dire ou ne porte pas de fruits, ne porte pas les fruits de la justice qu'elle devrait porter. C'est pour ça que j'ai toujours un rôle à jouer. Celui qui est appelé a toujours un rôle à jouer. Il y a toujours des choix à faire. Il y a toujours des décisions à prendre. Mais il y a toujours le Tout-Puissant qui est là pour lui aider s'il fait les choses qu'il a à faire. Regardez dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 et le verset 17. Jacques chapitre 2 et le verset 17. C'est frappant ici. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, les actions de justice, elle est morte en elle-même. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et regardez un peu plus loin, le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile? Juste croire à Dieu et croire Dieu, mais ne pas faire ce que Dieu me dit de faire, c'est comme si j'y croyais pas, dans le fond. Écoutez, c'est comme si je dis, je connais la loi de la gravité, je sais qu'elle existe, je sais que si je vais au bout d'un précipice et que je me lance dans le vide, la loi de l'attraction va me tirer vers le fond et je vais me blesser ou je vais me tuer. J'ai beau savoir la loi, si je ne la mets pas en pratique, c'est comme si je ne la savais pas. C'est exactement la même chose au point de vue spirituel. Si je crois en Dieu, je dois croire ce que Dieu dit et je dois le faire. Et cette foi-là doit m'amener à faire des œuvres. Et ça la garde active, ça la garde vivante. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile? Verset 24, un petit peu plus loin. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Non par la foi seulement. Pourquoi on dit justifié? Parce que s'il pratique les œuvres de justice, il marche dans la justice, il est justifié. Il continue de se purifier, de vivre selon les lois de Dieu. L'homme est justifié par les œuvres, non par la foi seulement. Et regardez l'exemple qu'il nous donne ensuite pour bien comprendre. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Comment ça s'est passé dans son cas? Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Vous savez, quand les espions ont été envoyés dans la ville de Jéricho, avant que les Israélites la prennent, selon l'ordre de Dieu, cette dame-là a reçu les espions, les a protégés, les a empêchés d'être tués. Elle a agi. Elle a fait quelque chose parce qu'elle a cru au Dieu des Israélites, au vrai Dieu. Mais elle a agi. Il y avait des œuvres. C'était des œuvres de justice. Voyez-vous? Et lorsque les messagers, elle les fit partir par un autre chemin. Verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. » Ça, c'est important qu'on sache ça pour bien comprendre ce que c'est que la foi, d'où elle vient et quoi nous devons faire avec, ce que nous devons faire avec pour honorer notre Dieu et pour que cette foi-là soit agissante en nous. Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte. Et si elle est morte, elle n'a pas de courage. Comprenez-vous pourquoi les saints, dans l'Ancien Testament, les héros de la foi, ont enduré des choses parfois terribles et qu'ils ont pu passer à travers parce qu'ils avaient la foi du Christ et ils avaient en même temps le courage du Christ parce qu'ils vivaient selon ces voies-là. C'est ça. Mais c'était pas un courage qui venait d'eux et c'était pas une foi qui venait d'eux. Quand on lit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont eu à traverser, parfois on se dit, moi je serais pas capable de traverser ça, je pense. Et humainement parlant, c'est vrai. Sauf que ils avaient l'esprit du Christ. Le Christ qui a vaincu le monde, qui a vaincu Satan, qui a vaincu la nature humaine. Je vais définir maintenant rapidement ce qu'est la foi, puis je vais définir après ce qu'est le courage, pour que ça nous aide à vraiment identifier les choses. La meilleure définition de la foi, vous pourriez me la donner vous-même dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1 dit ceci. La foi... On parle de la foi de Dieu, la foi divine, non pas notre foi humaine. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, on espère le royaume de Dieu, on l'attend. Ni vous ni moi ne l'avons vu. Pourtant, nous sommes certains que le Christ va revenir et qu'il va établir son gouvernement sur la face de la terre, qu'il va mettre fin aux guerres, aux souffrances, aux maladies, aux malheurs de toutes sortes. Nous en sommes convaincus. Mais ce n'est pas notre conviction, c'est la foi du Christ en nous qui nous donne cette ferme assurance. Le Christ croit à ce qu'il est, le Christ croit à ce qu'il fait, le Christ croit à ce qu'il va faire, et le Christ en vous vous ramène tout simplement ce qu'il croit lorsque vous restez fixé sur le sceptre en tant que les branches de cette vigne. Alors la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est de croire en Dieu, oui, mais croire en Dieu ne suffit pas. Il y a des millions et des milliards de personnes qui croient en Dieu dans le monde. mais qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu, que Dieu existe, mais il faut croire ce qu'il dit et le faire. Ça, c'est l'autre partie, la partie la plus difficile. Mais encore là, Dieu nous aide pour le faire aussi. Mais la vraie foi, celle qui est une ferme assurance des choses qu'on espère puis de celles qu'on ne voit pas, c'est de croire ce que Dieu dit, de croire à ses promesses. Et là-dessus, ce n'est pas des suppositions, parce qu'on voit dans la Bible que ce que Dieu a annoncé il y a des milliers d'années s'est produit au cours des siècles. Comme la venue de Christ à un moment précis de l'histoire, le fait qu'il allait être vendu pour tant de pièces d'argent, le fait qu'il allait mourir en croix et tout ça, le moment où ça devait arriver, tout ça a été annoncé et tout ça est arrivé. Et les autres prophéties qui sont écrites et qui ne se sont pas encore produites, elles vont se produire, comme les premières se sont produites. Pourquoi on en est certain? Parce qu'on a la ferme assurance de la foi du Christ en nous. Lui sait que ce qu'il a annoncé va se produire, parce qu'il l'a fait arriver. Et c'est aussi croire que Dieu a le pouvoir d'accomplir, dans ce sens-là, ce qu'il déclare qu'il va faire. C'est parce que nous croyons ce que Dieu dit que nous nous purifions aussi. Hein, qu'on fait des efforts pour éliminer le mal de notre vie, là, pour vivre selon ses lois. C'est parce qu'on croit ce que Dieu dit. Et c'est important. Et que nous nous appliquons à vivre de plus en plus selon la justice de Dieu, comme on a vu, selon les lois justes de Dieu. Et c'est ça, les œuvres de justice. Ça vient du fait qu'on croit Dieu, qu'on s'applique à en vivre, et on revêt le Christ à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on agit de plus en plus comme le Christ agirait à notre place. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions. Parce que dans la famille de Dieu, il y aura un seul esprit, une seule mentalité, une seule façon de faire dans la famille divine. C'est une loi d'amour basée sur les commandements de Dieu. Romains 1. Allons à Romains chapitre 1. Voyons ce que Paul a écrit ici. Romains chapitre 1. Et nous allons lire le verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. » Et c'est vrai que l'Évangile de Dieu, c'est une puissance. Ça contient l'annonce du royaume de Dieu, la façon de parvenir à la vie éternelle, le repentir, les lois de Dieu et tout ça. C'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Pourquoi? Parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélé la justice de Dieu, les œuvres justes que les saints doivent pratiquer. En lui est révélée la justice de Dieu, comment? Par la foi de Jésus-Christ dans vous et dans moi. À un moment donné, on croit que les lois de Dieu sont les lois selon lesquelles on doit vivre. Ça nous est donné de le croire. On peut le rejeter, Dieu respecte la liberté qu'il nous a donnée. On peut le rejeter et dire, non, c'est pas ça. Je veux continuer à vivre selon mes voies à moi. Quand Dieu nous appelle, on a cette croisée de chemin-là qu'on rencontre et on doit faire un choix. Mais lorsqu'on choisit pour suivre les lois de Dieu, à ce moment-là, la foi de Dieu nous fortifie. C'est par la foi et c'est pour la foi. Et plus on le met en pratique, ce chemin de vie, de vivre selon les voies de Dieu, plus notre foi augmente. Pourquoi? C'est simple. Dieu le dit dans Actes 5, verset 32, qui donne son Saint-Esprit, sa puissance, dont un des fruits, c'est la foi aussi, à ceux qui lui obéissent. Alors, plus on s'efforce d'obéir à Dieu, comprenez-vous que plus il nous donne de son Saint-Esprit, et plus on a cette foi, plus on a cette conviction, plus on a cette ferme assurance, quelles que soient les circonstances, et nous allons en avoir besoin dans les temps qui approchent. Après, il ajoute en terminant, « Selon qu'il est écrit, le juste » celui qui pratique la justice de Dieu, vivra par la foi. Mais oui, parce qu'il vit par la foi du Christ qui s'est donné pour lui et cet homme-là, cette femme-là, veut faire la volonté de Dieu. Plus nous obéissons, plus Dieu nous donne son Saint-Esprit et plus Jésus augmente sa foi en nous. Comprenez bien ça. Plus on s'efforce d'obéir, même si on n'est pas parfait, il nous arrive de tomber, il faut demander pardon encore, et on recommence. Il ne faut pas se décourager, mais il faut rester en marche et changer. Mais plus on s'efforce d'obéir à Dieu et qu'on vit dans une attitude de repentance, plus Dieu nous donne son Saint-Esprit et plus Jésus met sa foi en nous. Plus on devient zélé, et automatiquement, plus on devient courageux. Parce que le courage, c'est aussi un synonyme de zèle également, d'ardeur. Quand on croit vraiment à quelque chose, hein, on a une ardeur pour y aller. Ça, c'est le courage qui vient avec la croyance, la certitude, la ferme assurance, comme on a vu tantôt. À ce moment-là, on marche par la foi, et on marche par la foi du Christ. Et on marche de plus en plus comme le Christ, avec de plus en plus de foi et avec de plus en plus de courage. Rappelez-vous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas encore. Mais c'est une ferme assurance, ce n'est pas un doute. Plus ça va, plus on est certain et plus on est convaincu de ça et plus on est prêt à payer le prix s'il le faut. Parce que c'est là le but réel de la vie, il n'y a pas d'autre chose de plus important. C'est notre priorité, Dieu nous l'a montré, cet avenir fabuleux qui nous est réservé pour servir Dieu éternellement et pour servir les autres dans le monde à venir. Maintenant, laissez-moi vous définir rapidement le courage. Là, on a vu la foi. On va voir le courage maintenant. C'est quoi? Je suis allé chercher quelques définitions à gauche et à droite un peu. Il y a un écrivain américain du nom de Mark Twain qui a, je vois qu'il y en a qui connaissent cet écrivain-là, qui a donné une définition intéressante. Mark Twain dit, le courage, c'est la maîtrise des peurs et non l'absence de peur. Notez bien ça. Le courage, c'est la maîtrise des peurs et non pas l'absence de peur. Parce qu'humainement parlant, il nous arrive d'avoir des peurs. Il nous arrive d'avoir des inquiétudes. Il nous arrive d'avoir des soucis. Mais le Christ dit, remettez toutes ces choses-là dans ses mains à lui. Et lui va s'en occuper. Lui va nous donner la force. Je ne veux pas aller plus loin de ce côté-là. Je reste à ma définition ici. M. Twain a raison quand il dit la maîtrise. Le courage, c'est la maîtrise des peurs et non pas l'absence de peur. Dans le dictionnaire Merriam-Webster, ça dit ceci. Le courage, c'est la force morale et mentale nécessaire pour résister à l'opposition, aux dangers et aux épreuves. Et ça aussi, c'est une bonne définition de ce qu'est le courage. La force morale et mentale nécessaire pour résister à l'opposition, aux dangers et aux épreuves. Qu'est-ce que les héros de la foi d'Hébreu 11 ont fait? C'est qu'ils ont résisté à l'opposition. Combien d'entre nous sommes venus à l'Église et avons dû résister à l'opposition de nos amis ou même des membres de notre famille parce qu'ils ne comprenaient pas pour l'instant ce qui nous était donné à nous de comprendre? Mais pour être encore là, il a fallu tenir bon, résister, malgré l'opposition qu'il y avait. Alors ça, c'est du courage. Je veux que vous sachiez, si vous avez fait ça, c'est que vous avez fait preuve de courage, et ce courage-là vous a été donné par le Christ. Il y a des merci à dire pour ça aussi. Et lui demander d'en avoir encore plus dans les circonstances qui viennent. Et le dictionnaire dit que c'est la force morale et mentale nécessaire pour résister à l'opposition, aux dangers et aux épreuves. Et les épreuves, elles viennent, et les dangers, ils sont là et ils viennent aussi. Mais c'est la même réaction courageuse qu'on doit avoir par le Christ en nous, si nous sommes proches de lui. D'où cette importance d'être constamment proche du Christ et de chaque jour commencer nos journées en parlant à Dieu, en priant à Dieu. Ne jamais commencer une journée sans prendre le temps nécessaire de prier à Dieu. Pas une prière d'une minute rapidement en allant faire le café, mais en prenant un temps privilégié pour honorer notre Dieu, se mettre à genoux et lui parler, pour mettre notre journée entre ses mains et lui demander de faire sa volonté. Puis aussi, chaque jour, ensuite, d'étudier sa parole, d'y réfléchir durant la journée puis de la mettre en application. Là, on est proche du Christ. Et le courage, c'est la détermination de continuer, de tenir bon, de ne pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. C'est là qu'on a besoin du courage, quand les choses deviennent difficiles. Quand tout va bien, on dirait qu'on est courageux, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de ce courage dont je vous parle. Et laissez-moi vous dire que le courage n'est pas une qualité innée. Ce n'est pas une qualité qu'on a en naissant. Certains êtres humains sont peut-être plus naturellement courageux que d'autres, ça oui, ça c'est la réalité, mais ce n'est pas une qualité innée qui résout tous les problèmes. Et je vous parle maintenant du courage spirituel qui est d'un autre niveau maintenant pour affronter des situations encore plus grandes. Alors, il faut l'acquérir, ce courage-là, il faut le développer, et le développer par la puissance du Christ en nous. Maintenant, je vous donne une autre définition du courage aussi qui nous aide à voir un autre aspect. Ça, c'est le dictionnaire Robert. Le courage, c'est l'ardeur, l'énergie déployée pour réussir une entreprise. Le courage, c'est l'ardeur, l'énergie déployée pour réussir une entreprise. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous vous préparez, vous planifiez, vous faites des sacrifices pour ça, et si vous y tenez vraiment, vous allez avoir le courage de continuer jusqu'au bout pour le réaliser. C'est pour ça qu'on donne cette définition ici. Le courage, c'est l'ardeur, l'énergie déployée pour réussir une entreprise, réussir ce qu'on entreprend. Et nous, on a entrepris un voyage spirituel incroyable qui nous amène vers un avenir inimaginable. Et c'est ce à quoi on tient le plus possible maintenant. Parce que quand on regarde les supposées valeurs qu'il y a autour de nous dans la société, en réalité, il n'y a plus rien qui nous attire. On a hâte que ces choses-là changent et que les gens cessent de souffrir et de se faire souffrir et que les vraies valeurs de Dieu soient instaurées dans la société actuelle. Alors, le courage, c'est l'ardeur, l'énergie déployée pour réussir une entreprise. Il y en a plusieurs qui sont des beaux exemples de ça dans la Bible. Je vous donne juste l'exemple de Paul. Est-ce qu'il y en a un qui a souffert plus que Paul? Oui, le Christ a souffert plus que Paul. Mais parmi les autres apôtres et parmi les autres disciples, Paul a sans doute été un de ceux qui a le plus souffert, qui a été le plus maltraité, rejeté. Il a même été battu, il a été laissé pour mort, il a été lapidé. Il a fait naufrage, il a été 2 jours et 2 nuits, je pense, dans l'océan à se tenir après un bout de bois. Serviteur de Dieu. Dieu a permis qu'il en soit ainsi. Dieu nous l'a donné en exemple et Dieu était avec lui jusqu'à la fin. Il lui avait dit qu'il avait une mission spéciale à accomplir et qu'il allait être avec lui jusqu'à la fin. Et Paul, c'est lui qui a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La foi de Christ en nous. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Hein? Et si je vis, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est ça. C'est de là que venait la force. Même chose pour M. Appartient, qui a littéralement donné sa vie jusqu'à l'âge de 94 ans, tant qu'il a pu jusqu'à la dernière limite. Vous voyez ça encore dans la vie de M. Meredith maintenant, 82 ans, qui se donne une charge de travail incroyable chaque jour, qui est en train de rédiger son autobiographie en plus de toutes ses responsabilités, malade, qui a eu 2 ACV, son épouse malade, gravement, continue. Son travail, sans arrêter. Qu'est-ce que c'est le courage? C'est l'ardeur, l'énergie déployée pour réussir une entreprise. Parce que dans la vie de M. Appartient, dans la vie de l'apôtre Paul, dans la vie de M. Meredith, la plus grande entreprise, c'est l'entreprise de Dieu. L'annonce de l'Évangile, finir l'œuvre pour que l'humanité soit libérée. Et c'est leur appel qui est la chose la plus importante de leur vie. Le dictionnaire Robert définit encore le courage comme ceci. Le courage, c'est la fermeté devant le danger. D'être ferme devant un danger. Et là, je vous donne un exemple, vous allez comprendre facilement. Rappelez-vous les 3 amis de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar avait dit que tout le monde devait se prosterner devant la statue d'or qu'il avait érigée à sa gloire. Et ces 3 jeunes hommes-là ont refusé parce que ces 3 jeunes hommes-là ne s'agenouillaient que devant Dieu. OK? Alors, ils ont refusé d'adorer cette statue-là. Et le danger, c'était d'être jeté dans une fournaise ardente. Ils ont accepté même d'être jetés dans une fournaise ardente pour ne pas transgresser la loi de Dieu. Ça répond à cette définition du courage. Le courage, c'est la fermeté devant le danger. Il y a d'autres exemples bibliques, mais cet exemple-là est vraiment frappant puis c'est encourageant pour nous. Et on sera peut-être placé, certains d'entre nous, devant certaines situations où nous aurons des décisions à prendre qui impliquent beaucoup. Et on aura le choix, un ou l'autre. Mais toute notre vie éternelle est en jeu là-dedans. C'est pas peu de choses. Alors, le courage, c'est la fermeté devant le danger et devant la souffrance physique ou morale. Vous avez un autre bel exemple dans la Bible. Vous le connaissez très bien, on ne s'y reportera pas. C'est Job. Regardez l'histoire de Job, serviteur de Dieu, malade. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu sa fortune, perdu sa santé. Sa femme même voulait le rejeter et lui a dit, « Maudit ton Dieu et meurs. » Ça, c'était l'encouragement qu'il avait de son épouse. Mais Job, malgré tout ça, a resté fidèle à Dieu, même s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et souvent, dans nos vies, on passe des périodes où on ne comprend pas ce qui nous arrive, et c'est là que c'est le moment de faire preuve de foi et de courage et de demander à Dieu qu'il nous donne la foi de Christ et son courage pour être capable d'attendre la réponse. Parce que Dieu a un timing. Dieu a un moment pour faire ce qu'il a à faire. M. Meredith a écrit dans une ancienne Tomorrow's World concernant le courage, il a écrit ceci. Le courage est une qualité dont nous aurons tous vraiment besoin dans les prochaines années afin d'agir selon le véritable christianisme, celui de la Bible. C'est ce que je vous dis. On aura des situations à vivre. On aura des choses à rencontrer qui seront difficiles. Et la petite phrase de M. Meredith, elle est importante ici. Le courage est une qualité dont nous aurons tous vraiment besoin dans les prochaines années afin d'agir selon le véritable christianisme, celui de la Bible. Tout devient possible par le Christ qui nous donne la foi et le courage. Tout devient possible par lui. Ça, il faut s'en rappeler dans les moments difficiles. Vous irez voir dans Psaume 84 et le verset 6. Psaume 84 et le verset 6. Ça nous montre ce que Dieu va faire si on cherche à faire sa volonté. Psaume 84, allons-y. Psaume 84. Dieu, selon sa promesse, n'abandonnera jamais celui qui se tourne vers lui. Ça, c'est assuré comme le lever du soleil chaque jour. Regardez Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ceux qui se tournent vers Dieu pour avoir l'aide. Ceux qui comptent sur Dieu pour vaincre. Ceux qui demandent à Dieu d'avoir la foi et le courage. Ceux qui demandent à Dieu avant tout et par-dessus tout de faire sa volonté en toutes circonstances. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ, à l'intérieur de ces personnes-là, va leur montrer quoi faire et va leur donner la force pour faire ce qu'ils doivent faire dans les circonstances qu'ils vont rencontrer. Ils trouveront dans leur cœur les chemins tracés à suivre pour arriver au but, par la force du Christ en eux. C'est fort et c'est tellement encourageant quand on le voit de cette façon-là. Allez maintenant à Deutéronome 31. Deutéronome chapitre 31. On va voir ce que la Bible nous enseigne par rapport à la foi et au courage. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais je veux résumer le plus possible pour qu'on garde notre attention sur le sujet et qu'on en tire le maximum. Deutéronome 31, versets 1 à 8. Ça, c'est les dernières paroles de Moïse avant que Moïse meure. Alors, il transmettait l'autorité à Josué pour permettre, selon la volonté de Dieu, au peuple d'Israël d'entrer en terre promise sous Josué. Alors, Deutéronome 31, verset 1, « Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. » C'est-à-dire, « Je ne pourrai plus mener vos batailles ni aller devant vous. » Et l'Éternel m'a dit, « Tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. » Il parle à la nation d'Israël et à Josué. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Avouez-vous, c'est l'Éternel qui devait leur donner la victoire sur leurs ennemis. Exactement la même chose que pour nous maintenant. Exactement la même chose. Il dit, fortifiez-vous. On pourrait dire, ayez foi, croyez à ce que Dieu vous dit. Fortifiez-vous et ayez du courage. Foi et courage, ça va ensemble. Ne craignez point. Si vous avez des peurs humaines, ayez le courage de Dieu pour voir au-delà de ça. Et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi. Il lui a transmis le même message. Et ça s'adresse à nous aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui le mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Ça, c'est le message pour nous qui sommes au temps de la fin, qui sommes sur le seuil d'événements majeurs. Pour ne pas nous effrayer, même si humainement c'est très inconfortable de voir les prophéties se réaliser avec autant d'intensité, de voir l'économie s'effondrer, de voir les bouleversements climatiques, de voir les conflits ethniques, les conflits de guerre et ainsi de suite. Il dit, ne t'effraie pas, aie confiance, je vais combattre pour toi, je vais être avec toi jusqu'au bout. Alors Moïse encourage la nation d'Israël à se fortifier donc, à avoir foi, la foi qui vient de la parole de Dieu et qui vient du fait d'agir selon ses voies. Et c'est important, c'est important. Agir selon ses voies. Et là, on prend courage. Et Dieu nous dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 16 et le verset 13. 1 Corinthiens 16 et le verset 13, l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, ça s'adresse à nous aujourd'hui, « Demeurez ferme dans la foi. » Voyez-vous, on a quelque chose à faire pour garder cette foi-là vivante, pour être ferme dans la foi. « Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes. » Fortifiez-vous. Ça veut dire compter sur Dieu. Demandez-lui cette foi, ce courage, mais mettez-le en pratique. Observez ses lois et vous le verrez intervenir. Et vous le verrez intervenir. Et je sais qu'il y en a plusieurs ici, vous m'en avez déjà parlé, qui ont déjà vu intervenir Dieu directement dans leur vie, soit dans des grandes choses, soit dans des petites choses. Même cette semaine, j'en ai encore entendu parler tantôt avant l'Assemblée. M. Ames a écrit dans un Tomorrow's World, « Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il nous donnera sa foi, son pouvoir, sa force. » Il nous donnera sa foi, son pouvoir, sa force. Mais vous, d'où ça vient? Si je n'ai pas compris ça et que je continue à essayer de compter sur mon pouvoir, sur ma force à moi, je me bute contre un mur, je suis frustré et ça ne marche pas parce que je ne vais pas au bon endroit pour avoir la force nécessaire. Il faut que j'aille au bon endroit, que je le reconnaisse, que je l'apprécie et que je lui dise. Maintenant, on va voir rapidement quelques exemples bibliques inspirants de personnages bibliques qui ont eu foi et qui ont eu courage. Genèse 12, on n'est pas loin de Genèse, allons à Genèse. Genèse chapitre 12, c'est l'histoire d'Abraham, qui est devenu par la suite Abraham. Genèse 12, commençons au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » L'Éternel ne lui dit pas où il va aller. Cet homme-là avait 75 ans. Il était riche, il était bien établi, au milieu de sa famille, au milieu de ses amis, de ses relations. Sa vie était avancée, il vivait dans l'abondance et ainsi de suite. Et voici que Dieu lui dit, « Abandonne tout ça, Abraham, et va-t'en dans un pays que je vais te montrer, parce que j'ai quelque chose à te faire faire. » Bon. Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Regardez verset 4. « Abraham parti. Foi, courage. Comme l'Éternel lui avait dit. » Quand Dieu nous dit de faire les choses de telle façon, c'est comme ça qu'il faut les faire. Et là, on est béni. Et Lot partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans. Il a quitté son pays et tout ce que je vous ai dit tantôt pour aller 800 kilomètres plus loin dans un pays inconnu et tout recommencer à zéro. Et là, il y avait des choses importantes qui l'attendaient aussi. Allons à Hébreux 11. Je vous ai parlé tantôt des héros de la foi. On va voir rapidement quelques exemples bibliques de gens dans Hébreux 11, de dirigeants que Dieu a appelés, que Dieu a choisis, et qui étaient remplis de foi et de courage, qui ont fait ce que Dieu leur demandait, au prix de grands sacrifices parfois. Mais ils sont mentionnés comme les héros de la foi, et ils attendent leur récompense, la vie éternelle, avec des postes dans le royaume de Dieu lorsque le Christ va revenir sur la terre dans quelques brèves années. Hébreux 11, vous pourrez lire tout le chapitre 1 à 40, mais regardez le verset 7, par exemple, le cas de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Oui, parce que Dieu avait averti Noé qu'il y avait un déluge qui s'en venait, qu'il allait punir l'humanité, qui allait mettre un terme à l'humanité qui était devenue méchante à l'extrême, pour ne pas qu'ils aillent plus loin et qu'ils soient irrécupérables par la suite. C'est par amour que Dieu a envoyé le déluge, parce que Dieu savait qu'il allait pouvoir plus tard ramener ces gens-là à la vie et là leur donner une vraie chance de le connaître puis de marcher dans ses voies. Alors, il a averti Noé, « Je vais détruire toute l'humanité, tous les êtres humains sur la face de la terre, sauf toi et ta famille. » Il lui avait donné un ordre, « Voici quoi faire, et regardez ce que Noé a fait. » C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. Mais oui, la justice qu'il a revêtue, là, les œuvres de justice qu'il a faites en obéissant à Dieu, c'est qu'il devient héritier de cette justice-là qu'il va enseigner dans le monde à venir, qui s'obtient comment? Par la foi. Par la foi. Formidable. Allons plus loin maintenant. Alors, on vient de voir l'exemple de Noé. Homme de foi, homme de courage. Il y en a plein d'autres ici dans le chapitre 11 de Hébreux. Allons au verset 24. Verset 24, ici, c'est Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Lui avait été élevé à la cour de Pharaon, dans la richesse. On dit que Moïse était un commandant important de l'armée, lorsqu'on regarde l'histoire et tout ça. Alors donc, il avait un poste prestigieux, richesse, gloire, tout ce que vous voulez. Et il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et regardez le choix, là. Vie facile, vie abondante, vie de richesse, poste brillant. Moïse, par la foi de Christ, abandonne ça. Pour un poste meilleur? Non. Pour souffrir avec le peuple de Dieu. Voyez-vous? On aura à souffrir des choses d'ici le temps de la fin, d'ici la fin de tout. Mais il faudra tenir bon. Moïse a son nom écrit parmi les héros de la foi et il attend sa récompense. Regardez le verset 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la ferme assurance de ce qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas encore. C'est ça. Moïse l'avait, comme vous l'avez, j'espère. Si vous ne l'avez pas assez, demandez à Dieu qu'il vous la donne. Il va vous la donner. Et vous serez capable de passer à travers des situations extrêmement difficiles, s'il le faut. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Voyez-vous, la foi, c'est une ferme assurance. Il y a une fermeté qui vient avec. Comme voyant celui qui est invisible. Il ne le voyait pas physiquement, mais comme voyant celui qui est invisible, le Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et il fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites et ainsi de suite. Un autre exemple rapidement, verset 31. Rahab, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Encore un autre bel exemple de foi. De courage, de quelqu'un qui a compté vraiment le coup, qui a fait les choses qu'il fallait faire. Le dernier exemple que je veux vous donner, il est frappant et il va vous aider, j'espère autant qu'il m'a aidé. Et c'est l'exemple de David. Allez à 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Ici, vous avez l'armée d'Israël qui est là, qui est paralysée, parce que les Philistins sont en face, et il y a ce géant qui sort chaque jour, qui insulte Dieu, qui insulte l'armée d'Israël, qui dit « Envoyez-moi quelqu'un pour se battre, et puis ça va se régler. » Mais tout le monde a peur. Le roi Saül a peur, l'armée a peur, le peuple d'Israël a peur. Et vous avez un tout petit berger, David, qui, lui, a démontré la foi de Dieu et le courage de Dieu. Pas sa foi, pas son courage. La foi de Dieu et le courage de Dieu. Ça, c'est formidable. Et c'était pas arbitraire, ou c'était pas tout d'un coup comme ça. Parce que David avait vécu avant ça des expériences avec Dieu. Il avait marché avec Dieu. Il avait compté sur lui auparavant dans plein de situations difficiles et il avait vu que c'était Dieu qui l'avait délivré. Et il avait dit, le même Dieu qui m'a délivré de ces choses-là va me délivrer de la main de ce géant que je ne suis pas capable d'abattre. C'est Dieu qui va le faire. Rappelez-vous, Dieu avait dit, je vais combattre pour vous. Hein? David le savait, ça. David le savait et David l'a mis en application. David savait que Dieu était avec lui. 1 Samuel 17 et le verset 26. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Alors, David n'avait pas peur. Il dit, « Qui va intervenir? » Regardez le verset 32, un peu plus loin. David dit à Saül, on sait l'histoire, vous pourrez lire entre les deux, David a été amené auprès du roi Saül et lui a offert d'aller combattre. Mais Saül a dit, « T'es trop jeune, t'es trop petit, tu pourras pas. » Regardez ce qui se passe. Verset 32. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur, en voulant dire moi, ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Il n'y a aucune commune mesure. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. » Et là, il lui raconte ce qu'il a vécu dans les champs quand il était seul pour prendre soin des brebis et qu'il se présentait des animaux sauvages et qu'est-ce qu'il faisait. Et Dieu a permis que ça arrive, ces choses-là, pour développer la foi de David à travers les expériences qu'il lui a donné de vivre et de voir que c'est Dieu qui le délivrait de ces choses-là et que ce n'était pas par sa force. Nulle part, David dit, « Hey, moi, j'étais fort, hein? J'étais un adolescent solide, je m'étais entraîné, j'étais capable de faire plein de choses. » Jamais David dit ça, vous allez voir. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » C'est pas humain. C'est pas humain. Il y a quelque chose de plus, là, auquel Dieu a permis qu'il arrive. Verset 36. « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, et regardez la réponse que David donne, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Voyez-vous sur qui il comptait? Sur qui ses yeux étaient? Voyez-vous qu'il avait l'assurance des choses qu'on ne voit pas encore? Il ne voyait pas que humainement il pourrait détruire ce géant-là, mais il savait que Dieu avait la force de le faire. Et il allait parce que Dieu avait été insulté. Voyez-vous? Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Mais regardez le verset 38. Ça, c'est mignon de voir, et c'est drôle de voir la situation. Verset 38. « Saül fit mettre ses vêtements à David. » Là, on voit que le roi s'est dit en lui-même, « Bien, au moins, je vais lui mettre mon armure. » Il n'est pas pour aller là, se battre avec presque rien sur le dos, avec de simples vêtements civils, pour affronter le géant qui est armé jusqu'aux dents, qui a une cuirasse, qui a un casque et tout ça. Alors Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, un casque de fer. Il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül. Et l'épée de Saül devait être grande et pesante, parce que Saül, c'était un homme très grand. La Bible dit qu'il dépassait les plus grands hommes, les hommes de plus haute taille en Israël, de la tête et des épaules. Donc, c'était un homme très grand, donc son épée devait être assez lourde et assez grande. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher. Je suis même pas capable de marcher avec ce que tu me donnes de mettre sur le dos pour aller me battre. Je suis pas capable d'avancer avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. » Il était trop petit en plus, puis il n'était pas habitué de marcher avec ça. Il s'en débarrassa. Il enlève tout ça et il prit en main son bâton, ça il était habitué, il avait soin des moutons avec ça, et choisit dans le torrent 5 pierres polies, il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Voyez-vous, il laisse toutes les armes humaines qui auraient été logiques de prendre, qui étaient même trop grandes pour lui parce que c'était encore un adolescent, et il prend ses petits cailloux qu'il prenait d'habitude et sa fronde, puis il s'en va. Mais il sait que ce n'est pas lui qui va combattre. Et regardez, c'est ça, le verset 40, il a pris les mêmes choses qu'il avait avant, sachant que Dieu était avec lui. Maintenant, en terminant, je vous donne rapidement quelques moyens pour développer cette foi et ce courage-là de David, de Moïse, d'Abraham, de Rahab, des autres, des héros de la foi. Des moyens simples, mais tellement efficaces. Il faut continuer à déterminer d'obéir à Dieu. Vous savez, on a toujours le choix. Hein? Dieu respecte notre liberté. Quelqu'un peut cesser d'obéir à Dieu, ou diminuer d'obéir à Dieu, ou faire des compromis, ou dire plus tard, je vais faire ce qu'il faut faire. Mais plus tard, il sera trop tard. Il faut être prêt quand c'est le temps. Et quand Dieu nous donne de nous préparer à un certain moment donné, c'est là qu'il faut se préparer. Déterminer d'obéir à Dieu, de choisir la voie de vie de Dieu, ça reste toujours notre responsabilité. Et vous irez voir dans Proverbe 28, verset 1, Proverbe 28, verset 1, je vous le cite. Et regardez bien. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Il a peur. Il a peur de toutes sortes de choses. Celui qui a mal agi a peur de toutes sortes de choses habituellement. Alors, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste, par contre, c'est qui le juste? C'est celui qui pratique les lois de justice de Dieu, qui revêt le Christ, qui revêt les œuvres de justice. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance. Pourquoi qu'il y a de l'assurance? Bien, parce qu'il pratique les œuvres de justice de Dieu. Et s'il pratique les œuvres de justice de Dieu, il revêt le Christ et il revêt la foi et le courage du Christ. Il le reçoit en même temps parce que plus il pratique les lois de Dieu, plus Dieu lui donne son Saint-Esprit. Ça va ensemble. C'est un cercle. C'est incroyable. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste, lui, il a de l'assurance. Comme un jeune lion. Et ça va faire en sorte que dans certaines circonstances où normalement, en tant qu'humain, vous seriez désarçonné, apeuré, inquiet, ne sachant que faire, vous aurez de l'assurance en attendant de voir la délivrance que Dieu va vous donner en son temps. Et s'il faut que vous fassiez des choses avant, d'une certaine façon, Dieu va agir comme on a vu tantôt parce qu'il aura tracé dans votre cœur des chemins tout tracés pour savoir quoi faire en temps opportun. C'est ça. Et c'est ça que la parole de Dieu nous montre. Et on a beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Alors, le premier moyen pour développer foi et courage, c'est de continuer de choisir d'obéir à Dieu et de vivre avec cette assurance-là. Deuxièmement, ne pas chercher à plaire aux hommes ou aux gens. Ne pas chercher à plaire aux gens, mais chercher à plaire à Dieu en toutes circonstances. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Chercher à plaire à Dieu en toutes circonstances, mais ne pas chercher à plaire aux gens. On a des exemples malheureux dans la Bible de gens qui ont cherché à obéir, à plaire aux gens plutôt que de plaire à Dieu. Et les résultats n'ont pas été très bons. Vous avez l'exemple d'Adam qui a voulu plaire à sa femme, qui ne s'est pas tenu debout en disant « Écoute, Dieu nous a dit de... » Non, il a écouté sa femme, il a fait ce qu'elle lui a dit. Il a voulu plaire à sa femme plutôt que de plaire à Dieu. C'est ça, dans le fond. Mauvaise expérience, résultat malheureux. Vous avez eu le roi Saül, lui, qui a été impatient quand il a offert l'Holocauste. Le serviteur de Dieu, le ministre de Dieu, lui avait dit « Attends, je vais aller et là, j'offrirai l'Holocauste. » Et le serviteur de Dieu a tardé, probablement parce que Dieu a permis qu'il tarde. C'était un test pour le roi, voir si le roi allait respecter la demande qui lui avait été faite. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Quand il a vu que ça retardait, puis là, le peuple commençait à bouger un peu, peut-être à se plaindre, Saül dit « Je vais offrir l'Holocauste moi-même », ce qu'il ne devait pas faire, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. On sait les résultats de ça aussi. On sait ce que ça a apporté sur la nation et sur Saül aussi. Même expérience malheureuse avec Aaron. Même chose. Aaron, qui a voulu plaire au peuple plutôt que plaire à Dieu. Son frère était allé pour recevoir les commandements. Il avait donné des directives d'attendre et tout ça. Quand le peuple a commencé à bouger, Aaron a eu peur de Dieu ou peur des hommes? Il a voulu plaire aux hommes. Il a dit « Amenez-moi vos bijoux, on va... » C'est ça. Alors, il a voulu plaire aux hommes et non pas plaire à Dieu. Salomon, son histoire a mal fini. Pourquoi? Parce qu'il a voulu plaire à ses femmes. Il leur a bâti des hôtels aux faux dieux et ainsi de suite. Alors, vers la fin de sa vie, il a cessé de plaire à Dieu pour commencer à plaire aux femmes. Alors, ne pas chercher à plaire aux gens, mais toujours chercher à plaire à Dieu. Ça, c'est important. Autre point, croire Dieu et lui faire confiance. Croire Dieu et lui faire confiance. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est une promesse que j'aime beaucoup et qui est tellement encourageante. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dieu a promis de nous donner les moyens de supporter toutes les épreuves qu'il permettrait que nous ayons. C'est une promesse. Et quand on est écrasé par une situation, on peut aller devant Dieu puis dire, Dieu, tu nous as dit dans ce verset-là qu'aucune épreuve ne nous survient qui n'ait été humaine, et avec l'épreuve, tu nous donnes le moyen d'en sortir. Je te le demande parce que tu l'as promis. Je sais que tu es un Dieu fidèle et je te remercie de la réponse que tu vas me donner parce que tu ne mens pas. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tu vas me répondre. Voyez-vous la différence? À ce moment-là, c'est de faire confiance à Dieu, de lui rappeler ses promesses. Et ça rejoint un peu ce que Proverbe 3, verset 5 nous dit. Proverbe 3, verset 5, vous pouvez le noter. Puis dans votre étude que vous allez faire après, vous pouvez associer ça ensemble. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi sur l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et là, les choses réussissent. Et bien sûr, en Jacques 1, 2 à 4, soyez patients dans l'épreuve. Des fois, nous, on aimerait avoir la réponse tout de suite à quelque chose. Mais Dieu, pour les raisons qu'il sait, ne nous donne pas tout de suite la réponse. Si on continue à être fidèle, qu'on continue à lui demander, il va donner la réponse, mais en son temps. Mais il faut nous faire preuve de patience. Et demander à Dieu la force, le courage et la foi. Il faut lui demander ces choses-là. Vous pourrez aller voir dans Acte 4. Je pense qu'on va y aller. Ça vaut la peine. Acte 4. Acte 4. Ici, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean avaient été jetés en prison parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Après ça, ils ont été relâchés. Et quand ils ont rejoint les membres de l'Église, tous ensemble, ils ont prié Dieu et ont demandé à Dieu qu'il leur donne le courage et la foi. Et regardez ici, versets 29 à 31, acte 4. Dans leur prière, ils disent ceci à Dieu. « Maintenant, Seigneur, vois leur menace, la menace des gens autour et des dirigeants religieux, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne-nous de continuer encore plus fort ce qu'on faisait avant et pourquoi on a été arrêtés. » Ils n'ont pas dit « on va cesser de faire ça parce qu'on se fait regarder de travail ou on se fait mettre en prison ou on souffre de ça ». Non, ils ont dit « Dieu, donne-nous davantage d'assurance. Il faut annoncer l'Évangile. » Et c'est la même chose pour nous, avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Exactement ce que nous demandons par les temps qui courent à Dieu parce que nous sommes rendus au temps de la fin. Qu'il nous donne de faire les prodiges et les miracles qui étaient faits au temps de l'Église du début pour que le message de l'Évangile rayonne avec puissance. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, avec foi, avec foi. Et ils avaient cette ferme conviction que ce qu'ils annonçaient, ça allait venir au bon moment. Et bien sûr, ne jamais, jamais, jamais abandonner. Comme M. Appartient nous disait souvent, quelqu'un qui abandonne ne réussit jamais. Celui qui n'abandonne jamais réussit. C'est la clé, quelles que soient les circonstances. Mais encore là, c'est toujours par la force de Dieu. Et à plusieurs endroits dans la Bible, il nous est dit, il faut persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est marqué dans Apocalypse 3, versets 10 à 13. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et aura sa récompense. » Et nous, il faut continuer à travailler, à vaincre, à développer cette foi, ce courage. Ne pas opter pour la voie facile ni la voie de compromis. M. Meredith a écrit dans un Tomorrow's World il y a quelque temps, et je vous cite en terminant, il dit « Nous aurons besoin d'une foi intense et d'un courage qui dépasse de beaucoup la force humaine pour être capable de tenir bon. » Il est donc temps maintenant de bâtir une relation intime avec le Dieu vivant par son esprit. Voyez-vous que c'est de là que vient la force. C'est pour ça que je vous donne le message d'aujourd'hui. Par son esprit, afin de développer le courage et la force dont nous aurons besoin pour traverser les épreuves et les difficultés qui nous attendent et que nous ne pouvons même pas complètement réussir à réaliser ou saisir présentement. Vous savez, le Christ, c'est celui, c'est marqué dans la Bible, le Christ, c'est celui qui donne la foi. Je reviens à ça, ça prouve encore le thème que je vous donne aujourd'hui. Le Christ est celui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Même quand il nous donne sa foi au début de notre conversion et même en cours de route, on n'est pas rendu à la perfection. Et on a besoin qu'il la perfectionne encore à travers les différentes expériences que nous vivons, faciles ou difficiles, exigeantes ou non. Et c'est là que la persévérance doit jouer son rôle. Mais c'est celui qui donne la foi et qui l'amène à la perfection. Vous allez voir ça dans Hébreux 12 et le verset 1, le chapitre suivant, la description des héros de la foi. Demandons la foi et le courage essentiel pour arriver au but. La foi et le courage, c'est un duo essentiel pour atteindre la vie éternelle, pour entrer dans le royaume. Continuons à faire notre part en soutenant l'œuvre de Dieu et en nous appliquant sincèrement à vivre selon ses voies. Si oui, Dieu va nous amener lui-même, par sa puissance, à un avenir heureux et glorieux.